Eh bien, les amis, Boker Tov, Shavua Tov, Rodesh Tov, Eliyahu Navi Zachor la Tov, tous les Tov et tout ce que vous voulez. Yom Gadol. Yom Gadol, pour ceux qui me suivent sur les groupes WhatsApp, vous avez pu recevoir ce matin la vidéo. Yom Gadol, puisque nous sommes le 3 qui se lève. Voilà. Et le 3 qui se lève, comme tout le monde le sait, c'est une fête juive, bien évidemment. Évidemment. Fête juive qui est marquée dans le livre Megillat Ta'anit, qui fait partie de ces innombrables jours, une trentaine de jours de fête, en plus, qui avaient été mis en place à l'époque du Second Temple pour faire symboliser des victoires sur les Grecs ou alors des victoires sur l'idolâtrie. En l'occurrence, le 3 qui se lève, c'est le jour où nous sommes arrivés au Beth Amikdash, parce que nous, on parle du 25 qui se lève, Hanouka, mais en fait, on est arrivé le 3 qui se lève, et c'est le jour où on a enlevé tous les symboles d'idolâtrie, les symboles grecs, les objets grecs que les Grecs avaient mis dans le Beth Amikdash. Donc, c'est le début, si vous voulez, de la fête. En vérité, elle commence maintenant, puisque c'est le moment où, avant de se remplir de la lumière de Hanouka, eh bien, il faut enlever ce qui dérange. Eh oui, c'est vrai aussi dans la vie, et c'est un grand principe de la Kabbalah, que tu ne peux pas faire rentrer à or chez la Kadosh Baruch Hu si il y a déjà quelque chose qui est chosem, il y a déjà quelque chose qui bloque. Donc il faut d'abord enlever ce qui bloque avant de pouvoir rentrer et faire rentrer la lumière. Donc ça, c'est le 3 qui se lève, et tout ça, c'était une introduction pour rentrer dans le vif de notre sujet, et nous sommes à une année charnière. Eh oui, la semaine dernière, on a parlé de l'enseignement de la Kabbalah d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, toute la période du Talmud. Et on a parlé de la différence entre Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli. Et maintenant, nous arrivons à un moment charnière de l'histoire, j'allais dire, de l'histoire en général et de l'histoire juive en particulier. Nous sommes très exactement en l'an 500. Ok, c'est pas difficile à retenir. L'an 500, c'est Khatimat HaTalmud à Bavli. C'est la fin du Talmud de Babylone. Alors, pourquoi c'est la fin du Talmud de Babylone? Il faut bien comprendre que le Talmud de Babylone, alors je sais que ce n'est pas un cours d'histoire, mais quand même, si on veut comprendre quelle va être la nouvelle époque de la Kabbalah des années entre 500 et 700, eh bien, on doit comprendre qu'en fait, le Talmud, c'est de génération en génération des rabbins qui parlent. Et ce n'est pas qu'il y a un bouquin, c'est de génération en génération des rabbins qui parlent. Il se trouve qu'aux années 500, eh bien, ça y est, c'est la fin. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple. Il y a un chamboulement dans le monde entier. Le monde entier change. Dans les années 500, on passe de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et en fait, cela va commencer avec l'année 476 et la chute de Rome. Les invasions barbares et la chute de Rome, le monde antique tel qu'on l'a connu, eh bien, n'est plus. Et donc maintenant, c'est le balagan. Oui, c'est le balagan. C'est le balagan, et pour ce qui est de la Torah, c'est tout autant le balagan, car les goïms vont nous imposer d'arrêter la Torah. Alors, de quoi on parle? Nous sommes en l'an 500 et il y a un roi que, en Perse, on appelle Isdegard numéro 2. Dans la culture occidentale, on préfère l'appeler autrement, on préfère l'appeler Kabad. Mais ce Kabad, ou Isdegard, eh bien, c'était le roi de Perse qui avait décidé que la tolérance religieuse qu'il pouvait y avoir dans l'Empire jusqu'à présent n'existe plus. Et donc, à partir de ce moment-là, terminé, finito la comédie, tout le monde doit prendre la religion perse et c'est terminé. Redifat ayahadut, redifat à Torah, on ne peut plus continuer à étudier. C'est terminé. Et donc, vont être fermés pendant près de 70 ans les yeshivot de Babylone. Les fameuses yeshivot de Soura et Pumpedita vont donc être fermées. Mais il y a pire, puisque les Perses vont arrêter, alors ça va reprendre un peu plus tard, mais ils vont arrêter le concept de Rosh Hagola, de Resh Galuta. Et là, il faut bien comprendre une chose. Le Talmud et la fin du Talmud marque un tournant dans le judaïsme, car jusqu'à présent, le Talmud fait force de loi pour tout Israël. C'est le dernier texte qui fait autorité pour tout le peuple juif. Depuis le Talmud et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus un seul texte qui fait autorité sur tout Israël. Terminé. Et pourquoi est-ce que le Talmud donc s'est arrêté ? Parce qu'on n'a plus laissé la possibilité de continuer à nous rassembler pour étudier et enseigner la Torah. Que ce soit au niveau pseudo-politique avec, j'ai dit, Rosh Hagola, ou alors avec les yeshivot de Babylone. OK ? Donc, vous comprenez que l'enseignement également de la Kabbalah, puisque ça ne va pas infecter que la Torah, on va dire, niglée, la halakha, mais ça va infecter également, évidemment, les secrets de la Torah. Il n'y a plus de stabilité pour pouvoir se poser et étudier la Torah. D'accord ? Donc, il va falloir maintenant réagir. Et comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette réalité-là ? La première chose à faire, c'est de s'enfuir. Tu ne peux plus rester en Babylone, c'est terminé. Donc, quand tu ne peux plus rester à Babylone parce que Babylone devient problématique, où est-ce que tu vas ? Le temps de pouvoir revenir à Babylone, où est-ce que tu vas ? Eretz Israël ! Évidemment ! Alors, en Eretz Israël, ce n'est pas tellement mieux. La situation, elle n'est pas jolie, jolie non plus, puisque les Byzantins nous font la misère depuis déjà 300 ans. C'est à cause d'eux que le Talmud à Yerushalmi s'était arrêté 150 ans plus tôt. Mais comme les chrétiens ont énormément à faire avec les différentes invasions barbares, finalement, dans l'Empire chrétien d'Orient, dans la Rome orientale, on a d'autres chats à fouetter. Et donc, résultat des courses, il y a un homme qui est le fils du Rosh Hagola qui va sortir en guerre contre Isdegard. Il s'appelle, ce Rosh Hagola, Mar Zutra. Mar Zutra, qui était le chef du peuple juif, sort en guerre contre Isdegard, parce que ce n'est pas possible si on nous impose de changer notre religion et de devenir perse, ce n'est pas possible. Mais cette révolte va échouer. Même si pendant 2 ans, Mar Zutra va avoir une pseudo-souveraineté sur les villes juives, il va finalement perdre. Et donc son fils, qui s'appelle également Mar Zutra, donc c'est un monsieur qui s'appelle Mar Zutra, Ben Mar Zutra, part en Eretz Israël et va créer Yeshivat Geone Eretz Israël. Aha ! Et nous entrons dans une période particulière, parce que je viens de dire Yeshivat Geone Eretz Israël, et donc vous allez vous dire, on rentre dans la période des Geonim. Eh bien non. Alors, évidemment, pour un tout petit rappel, je suis désolé aujourd'hui de faire un tout petit rappel historique de la transmission de la Torah, mais c'est important. Après les prophètes, il y a ce qu'on appelle Anshe Knesset HaGedola. Après Anshe Knesset HaGedola, il y a les Zugot. Ça, on en a déjà parlé. Après les Zugot, il y a les Tanaïm. Ce sont les rabbins de la Mishnah. Après, il y a les Amoraïm. Ce sont les rabbins du Talmud. Et après le Talmud, il y a une période de 150 ans où il y a des chachamim qu'on appelle les savoraim. OK ? Savoraim, ou alors dans le langage de la Gemara, rabbanan savoraim. Et ces savoraim, le mot savoraim vient du terme svara, C'est-à-dire, ce sont eux qui vont commencer à expliquer les sujets qui n'étaient pas clairs dans le Talmud. D'accord ? Et donc, c'est de cette période dont on parle pour arriver finalement aux années 650, au début de l'époque des Géonim. D'accord ? C'est bien clair ? Ouais ? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une migraine pas possible au niveau du cerveau ? Parce que je viens de vous expliquer quelque chose d'assez facile à comprendre, un suivi des générations, à savoir prophète, Anshei Knesset HaGdola, Zugot, Tanaïm, Amoraïm, Savoraïm, Fastoche. Il suffit de retenir les noms et tout va bien. Dans l'introduction au Kuzari, il me semble que le grave Cherki, alors j'imagine que tu parles du Rav Cherki, que le dernier Resh Galuta, juste avant l'écriture du livre avec Rav Saadia, donc le dernier n'est pas plutôt au Xe siècle, XIe siècle, eh bien, tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que, comme je l'ai dit moi-même dans ma phrase, ça va revenir. C'est-à-dire, le statut de Rosh Hagola va être arrêté, mais va revenir, et il va être re-arrêté après. D'accord ? En tout cas, donc ce que je vous ai dit pour l'instant, c'était fastoche à retenir. Là, je vais vous faire une migraine, parce qu'en vrai, ces terminologies qu'on donne, qu'on appelle les Tanaïm, les Amoraïm, c'est nous qui appelons ça comme ça. OK ? Savant vient du mot Savouraïm. Très bonne question, je ne sais pas. C'est intéressant, ça peut être pas mal. En tout cas, c'est ces mots-là, Tanaïm, Amoraïm, que genre Rabbi Akiva, c'est un Tana. C'est Hamoud, mais c'est faux. OK ? Que les choses soient bien claires. Tout le monde appelle les Chachmei HaMishnah des Tanaïm. Ce n'est pas vrai que c'est des Tanaïm. Et tout le monde appelle les Chachmei HaGmara les Amoraïm, mais ce n'est pas vrai que ce sont des Amoraïm. Eh oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Tana et Amora, ce sont des titres, des boulots qui sont faits par des personnages lambda dans les yeshivot de Babylone. Je vous explique. Dans les yeshivot de Babylone, il y avait trois personnages qui géraient la yeshiva. Il y avait le Rav. Et le Rav, c'est un vieux monsieur, tu sais, avec une barbe blanche. Donc le Rav, lorsqu'il veut enseigner, eh bien, il n'a pas forcément Internet avec toutes les sources qu'il peut trouver sur Internet pour préparer son cours. Et tu sais, avec l'âge, peut-être que la mémoire vacille un petit peu. Alors, le Rav, dans les Yeshivot de Babylone, avait à côté de lui un Tana. Tana, ça veut dire quoi ? Ça veut dire perroquet. C'est-à-dire perroquet. Un Tana, c'était quelqu'un qui connaissait par cœur toutes les sources. Et donc, le Rav, il disait, aujourd'hui, on va faire le cours sur Rabbi Akiva et son enseignement sur le schéma. Tana, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva sur le schéma ? Et là, le Tana, il prenait la place d'enseignant et il disait, Amar Rabbi Akiva, blablabla, blablabla, blablabla. Comme les Tanaïm, qui étaient des gens qui avaient plein de mémoire, eh bien, il citait en permanence les enseignements des Chachamim de la Mishnah. Eh bien, on s'est habitué à appeler les Chachamim de la Mishnah Tanaïm. Alors qu'en fait, aucun rapport. Maintenant, le Tana, donc, c'est un mec qui a de la mémoire. Le Rav, il a dit, OK, merci beaucoup, Tana, de nous avoir donné l'info. Maintenant, il y a une grande yeshiva. Les mecs, dans le fond, ils n'ont pas entendu. Donc, le Rav, de l'autre côté, il avait un autre monsieur qui s'appelait Amora, rien à voir avec la moutarde. Et donc, Amora, c'était un microphone, un micro. Puisque en fait, l'Amora, son rôle était de dire fort ce que le Rav avait enseigné. Donc, comme les Amoraïm ont pris l'habitude d'enseigner ce que disaient les rabbins de l'époque du Talmud, en fort, eh bien, on s'est habitué à appeler les rabbins du Talmud Amoraïm. D'accord ? Voilà, ça c'était juste pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il dit. Il y avait un troisième personnage dans les Yeshivot de Babylone qui s'appelait un Métourgéman. Vous voyez, parce que les sources étaient citées en hébreu. Seulement les gens, ils ne comprenaient pas forcément l'hébreu puisqu'ils parlaient araméen. Donc il y avait quelqu'un qui se baladait après dans les rangs pour voir si les gens avaient bien compris l'hébreu. OK ? Voilà, petite parenthèse terminée. Bekitsour, donc Marzoutra, Ben Marzoutra, part en Eretz Israël et crée le renouveau de la yeshiva en Eretz Israël. Et on crée le renouveau de la Torah en Eretz Israël. OK ? Et c'est là qu'on va arriver à une nouvelle transmission de Torah à Kabbalah. Dans la yeshiva d'Eretz Israël, évidemment qu'on va s'occuper de la halakha, bien sûr, mais Marzoutra ben Marzoutra, eh bien, va être quelqu'un qui va avoir pour rôle de promouvoir les sodot de Rabbi Shimon bar Yochai. En vérité, la yeshiva de Geon Yaakov, c'est comme ça qu'elle s'appelle, yeshiva de Geon Yaakov, eh bien, cette yeshiva-là va avoir une double identité. Dans la yeshiva, il va y avoir des gens qui étudient le niglé et des gens qui étudient le nistar. Et c'est unique en son genre. C'est-à-dire qu'on avait tout le temps des individus qui étudiaient comme ça, c'est Rabbi Shimon bar Yochai, il est le géant de la Torah de la Kabbalah, mais il est aussi le géant de la Torah Taniglé. Mais c'était un bonhomme, c'était Rabbi Akiva, c'était Rabbi Shimon, c'était Rabbi Meir. Là, dans la yeshiva, on va enseigner et ça, et ça. C'est unique parce que ça ne va pas rester, ce n'était pas avant et ça ne va pas rester après. Il semblerait qu'à cette époque-là, on ressent qu'il n'y a nulle part d'autre où aller étudier. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir le luxe de dire là, on étudie comme ci et là, on étudie comme ça. Et donc, tout le monde étudie tout. Et c'est ce qui va créer eh bien, la supériorité de Yeshivot Eretz Israël. Ça va ramener la supériorité de Yeshivot Eretz Israël à Yeshivot Bavel. Et au final, eh bien, on va déterminer, Alpi à Kabbalah, qu'il y a une chose, qu'il y aura toujours la prérogative de Yeshivot Eretz Israël sur Yeshivot Bavel, c'est la notion du temps. La notion du temps sera toujours l'apanage de Rabbanei Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? La perception du temps, c'est également notre perception du calendrier juif. C'est notre perception, en fait, de toutes les mitzvot. Eh bien, ça, c'est le rôle d'Eretz Israël, car ce n'est que là qu'on peut avoir un lien bezman avec Akadosh Baruch Hu, puisque ce n'est que là qu'on peut avoir un lien de lieu avec Akadosh Baruch Hu, et pour qu'il y ait rencontre, il faut le temps et l'espace. Et donc, à partir de maintenant, la dimension du temps est liée avec Eretz Israël. C'est très important de se le rappeler, car la semaine prochaine ou dans deux semaines, on verra, quand on arrivera à l'époque de Rabbeinu Saadia Gaon, donc 500 ans presque plus tard, 400 ans plus tard, eh bien ça créera un énorme problème qui va, kimat, amener à la scission du peuple juif en deux. Cette question du temps. Mais pour la yeshiva de Marzoutra ben Marzoutra, eh bien, la perception de l'homme dans le temps, c'est l'essence de Torah ta Kabbalah. Jusqu'à présent, c'était Torah ta Makom. Et on a parlé de la Kabbalah comme étant, on en a parlé du Zohar, comme étant la possibilité de sortir de l'exil. Vous vous rappelez ? C'était ça le rôle de la Kabbalah. Mais maintenant, on parle d'autre chose. On parle de la Kabbalah comme étant celle qui nous enseigne le moyen d'être éternel, d'être intemporel, de s'élever au-delà du temps. Et pourquoi on a besoin de ces enseignements-là à ce moment-là ? Eh bien, justement, parce que la galoute devient extrêmement compliquée, parce que le monde entier part en cacahuète. Il n'y a plus de stabilité dans le monde. Ainsi donc, les voyages aussi en Eretz Israël deviennent extrêmement compliqués. Donc, on va se connecter à une autre dimension, puisqu'on ne peut plus se connecter avec la dimension du Makom. Ceux qui sont en Israël y sont, ceux qui n'y sont pas, n'y sont pas et ne peuvent pas venir. Donc, on va développer la dimension du Zman. OK ? Maintenant, le problème, c'est que face à cette nouvelle réalité, eh bien, la Torah Takabala va être obligée non seulement de se réinventer dans le contenu, mais également dans le contenant. Et l'un des plus grands mekoubals de cette époque-là va changer complètement le style d'écriture et donc de transmission de la Kabbalah. Qui est le plus grand mekoubal du 6e siècle, des années 550? Alors 550-600, hein, il est mort plus ou moins dans les années 630. L'homme qui va porter la Kabbalah, eh bien, il s'appelle Rabbi. Attention, tenez-vous bien, vous le connaissez tous très bien. Enfin, non, ce n'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Vous ne connaissez pas forcément tous très bien. Il est très probable que les Ashkenazim le connaissent et que les Sfaradim beaucoup moins. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que ces textes sont principalement restés dans la liturgie ashkénaze et pas dans la liturgie séfarade. De qui suis-je en train de parler ? Eh bien, de Rabbi Eliezer. Quelqu'un ? Rabbi Eliezer HaKalir. Et Rabbi Eliezer HaKalir, alors chez les Sfaradim, peut-être que c'est un nom qui n'est pas très connu, mais chez les Ashkenazim, il est très connu parce qu'il est le papa de toute la Torah Tapiyutim. Alors, on connaît très bien les Païtanim de l'époque du 11e siècle, 12e siècle, en Sfarad, en Espagne. Tous les Païtanés Sfarad. Et ça, on les connaît très, très bien. Que ce soit Rabbi Shlomo Ben Gabirol, que ce soit Rabbi Yehuda Levi, que ce soit Ibn Ezra, que ce soit tous ces géants-là, agave, qu'on étudiera ensemble parce que ce sont tous des Chachma Kabbalah. Mais ça, ça viendra beaucoup plus tard. Le père de Torah Tapiyut, c'est Rabbi Eliezer HaKalir. Et Rabbi Eliezer HaKalir, sa façon de faire, sa façon d'enseigner, eh bien, va être une façon très particulière, puisque on va mettre à l'intérieur des piyutim d'abord une dimension lyrique qu'il n'y avait pas dans le Zohar, évidemment, et une dimension humoristique. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux de mots. Il y a plein de jeux de mots dans les piyutim. Ce ne sont pas que des rimes. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de piyut très connu de Rabbi Eliezer HaKalir qu'on va lire dans les Yotzrot. Alors c'est un truc qu'en Eretz Israël on ne dit plus, mais il y avait dans des communautés en Chutz La'aretz, des communautés ashkénazes, et bien plein de moments dans l'année où on rajoutait des passages à la Tfila pendant des Shabbatot particuliers. Par exemple Shabbat Zachor, donc le Shabbat avant Pourim, il y avait le Yotzer de Shabbat Zachor et on rajoutait une tfila longue comme l'exil. Eh bien, pendant cette tfila-là, il y avait les passages de Rabbi Yehuda et de Rabbi Eliezer HaKalir. Regardez ce qu'il nous dit. Atz kotzetz ben kotzetz. Ketzutzai le katzetz. Bedibur mefotzetz retzutzai le ratzetz. Letz berol lotzetz pulatz venitlotzetz. כעץ מתחצצים לחצץ, כנץ על ציפור לנצץ. Celui qui a un cheveu sur la langue, il ne peut pas lire Rabbi Eliezer HaKalir. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, je ne sais pas si vous avez compris de quoi on parle. D'abord, tu vois bien que le bonhomme, il a envie de mettre du tzadik partout. Il y a du tzadik dans tous les sens. Lama, parce qu'en filigrane, C'est sa Torah. C'est l'heure où le tzaddik prend le pas sur le racha. C'est Shabbat Zachor. Zachor Hashara Salecha Amalek. C'est le moment où on va parler de qui ? De Aman. Tout le truc que je viens de vous lire parle d'Aman. En sachant que le tzaddik, il va le battre. C'est pour ça qu'il y a du tzaddik partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je reprends l'exemple. Atz Kotsetz Ben Kotsetz. Aman, il est Kotsetz Ben Kotsetz. Il veut détruire, mais il est fils de ceux qui voulaient détruire. Amalek. Atz. Il va très très vite. Vous vous rappelez ? Il n'a pas pu attendre le matin. Il a fallu qu'il aille en pleine nuit chez Achashverosh. Donc, Atz Kotsetz Ben Kotsetz. Ketsutsai le Katsetz. Il voulait détruire mes Kotsim à moi. Kotsim, c'est tagué à Torah. Alors, d'accord. Bedibour me Fotsetz. Il voulait dire à Achashverosh, voilà, j'ai trouvé l'idée pour me débarrasser des Juifs. Retsutsai le Ratsetz. Il voulait éliminer tout ce qui était le judaïsme. Let's bevol le Lotsetz. Finalement, il s'en est retrouvé être un clown, puisque finalement, c'est lui qui va devoir habiller Mordechai. Pouladz venit Lotsetz. On s'est moqué de lui. Ke atz mechatsetzim lechatsetz. Et on a été très rapide pour se moquer de lui. Ke netz al tzipor lenatsetz. Et Am Israël s'est relevé tel le netz, tel le faucon qui remonte dans les cieux. C'est un exemple. Rabbi Eliezer HaKalir, voilà sa Torah. C'est une Torah qui va tout en subtilité parce que l'époque impose cette subtilité, cet humour et cette allégorie. On retrouve cette dimension de l'humour énormément Bichlal v'chachma Kabbalah. Mais pas que chez Rabbi Eliezer HaKalir. Dans toute l'histoire de la Kabbalah, nous disait Manitou, Talmid Chacham shelo tzochek ou lo retzini. C'est-à-dire, si tu n'as pas le sens de l'humour, alors, semble-t-il, tu ne peux pas étudier les choses profondes. Et la Gemara va nous expliquer que Chachamim, kshayu ayefim milimudam, ayu mesaprim milta dibdichuta. Les Chachamim, lorsqu'ils étaient fatigués de leur étude, ils se racontaient des blagues. Question, en quoi la blague va leur redonner de la force ? S'ils sont fatigués physiquement, qu'ils aillent faire une sieste. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas fatigués physiquement. Ils sont fatigués intellectuellement. Ils sont arrivés au bout de ce qui pouvait arriver. Et il faut que la milta dibdichuta, elle vienne ouvrir l'esprit. Et donc, Rabbi Eliezer HaKalir va être le père de ce qui va devenir tout un zérem, toute une idéologie, l'idéologie du piyout, où d'un côté, on fait passer des messages en filigrane, et de l'autre côté, on utilise énormément le sens de l'humour. D'accord ? Et finalement, eh bien, cette période des Savoraïm va laisser la place, en fait, c'est les mêmes, hein, mais elle va laisser la place à la période qu'on appelle la période des Géonim. Pourquoi on les appelle les Géonim ? Tout simplement parce qu'ils sont les Rachet Yeshivot à Géonim. Rosh Yeshivat Géon Yaakov. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Agaon. On a dit qu'il y avait une yeshiva comme ça en Eretz Israël, celle de Marzoutra ben Marzoutra. Mais il y en a deux nouvelles qui vont revenir après les tensions et après la mise en place d'une stabilité plus ou moins établie. Parce que n'oubliez pas qu'à partir de 622, il se passe un truc dans la région. Et oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un monsieur qui s'appelle Mahomet qui va commencer à pointer le bout de son nez. Et donc, dans les années 600, dans tout ce siècle-là, c'est l'avènement de l'islam. L'islam arrive. Et l'islam va avoir une conquête fulgurante, fulgurante, pendant les 80 premières années de sa vie. Et va conquérir un empire absolument incroyable, puisque évidemment la Perse, Babylone, tout ça va être sous leur domination, mais ils vont arriver jusqu'aux portes de la Chine et vont évidemment conquérir l'Europe pour finalement être arrêtés en 732 par Charles Martel à Poitiers. Bon, enfin, d'accord, mais ça fait quand même sacrément un gros royaume. Depuis Poitiers jusqu'aux portes de la Chine. C'est quand même pas mal comme truc. Et donc, l'islam, évidemment, va diriger également Babylone, l'Irak. Comment faire à ce moment-là pour les Juifs? Eh bien, lorsque le khalif, alors comment il s'appelait celui-là? C'est le khalif... Ah, je ne me rappelle plus. C'est le sixième khalif. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bon, l'honora. Ibn quelque chose. Mais donc ce sixième khalif arrive et c'est lui qui va conquérir Babylone. Et bien à ce moment-là, Rachet à Yeshivot de Babel vont ordonner aux Juifs de sortir en grande pompe pour accueillir le nouvel arrivant. Et donc c'est près de 80 000 Juifs qui viennent accueillir le nouveau conquérant Ibn quelque chose. Je ne me rappelle plus. Et ça va lui faire un rochem énorme et il va permettre la réimplantation des Juifs à Babylone, l'autonomie des Yeshivot, remettre en place Rosh Galuta, Rosh Agola, et non seulement le remettre en place, mais lui donner maintenant des Samchouyot beaucoup plus grandes qu'avant. Pourquoi ? Eh bien parce que maintenant, tout le monde juif, Abu Ubaïda, peut-être, il faut demander au Rav Google, de toute façon le Rav Google lui il sait. Quoi qu'il en soit, pour la première fois, depuis Malché Israël, depuis les rois d'Israël, le Rosh Agola va maintenant avoir la Samchout, l'autorité sur tous les juifs du monde. Ou alors 95% des juifs du monde. Puisque pratiquement tous les juifs du monde sont sous domination du monde musulman. À part quelques-uns qui habitent en France et en Allemagne, déjà à cette époque-là. Mais à part ça, tous les juifs du monde sont sous domination musulmane. Et donc, ça veut dire que maintenant, on peut enfin se reposer. Mais ça veut dire aussi que la centralité n'est plus Jérusalem, mais la centralité devient Bagdad. Et donc, les Yeshivot de Babel deviennent le centre du monde juif. Et donc, on commence. Cette fois, quand on a une question, eh bien, on ne les envoie plus en Eretz Israël, on les envoie à Babylone. Et va se lever un bonhomme qui va écrire le premier livre après le Talmud. Et c'est un livre, vous voyez que dans cette génération, on mixe Torah Taniglev et Torah Tanistar. Et là aussi, comme on avait dit avec Marzoutra Ben Marzoutra que dans sa yeshiva, on étudiait ça et ça. Alors Rabbi Eliezer HaKalir, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne le connaît pas pour son commentaire du Niglé. On ne le connaît que pour ses Piyutim Nistarim. Mais là, on va écrire un livre qui est Kol Kulo Alacha Ve'Agada. Et là, je tiens à le préciser. Je vais vous dire quel est le livre et vous allez foncer l'acheter. Le problème, c'est que lorsque vous l'aurez acheté et que vous l'aurez lu et que vous l'aurez compris parce qu'il est écrit en araméen, tout va bien. Non, mais il y a des traductions en hébreu. Le problème, c'est que vous me direz, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de Agada là-dedans. Il n'y a que de la Alacha. Et oui, parce que malheureusement, d'année en année, les imprimeurs de ce livre ont enlevé toute la partie Kabbalah du livre. C'est un scandale. Et à part si tu retrouves des anciennes versions du bouquin, qui d'abord, d'ailleurs, on avait pris toutes les agadotes de Kabbalah et on les avait mis à la fin du livre, et maintenant, dans les nouvelles éditions, ils ne sont même plus dans le livre. Je parle du premier livre qui va être écrit après le Talmud, qui s'appelle Les She'iltot. Sefer HaShe'iltot. De qui ? de Rav Acha. Rav Acha Mishabecha. Ou alors Rav Acha Agaon. Sheiltot de Rav Acha Gaon. Rav Acha Mishabecha est celui qui va le premier mettre en place cette nouvelle façon d'enseigner la Kabbalah. Jusqu'à présent, comment est-ce qu'on enseigne la Kabbalah? Eh bien, on enseigne la Kabbalah al pip suke à Torah. Le Zohar, il est selon les parachiotes. On enseigne al pip suke à Torah. Mais dans les Sheiltot de Rav Chaim Gaon, bien qu'on suive les psukim de la Torah, les parachiotes, on se concentre sur des nosim. En Eretz Israël, Nachon? Non, pas du tout. Pas en Eretz Israël. Sheiltot de Rav Chaim Gaon, c'est Bebavel. Eh bien, bien qu'on suive les versets de la Torah, on va se concentrer sur des nosim, c'est-à-dire sur des thèmes. Et à chaque fois qu'on aborde un thème, Rav Acha va expliquer tout ce qu'il a à dire au niveau de la halakha sur ce thème et tout ce qu'il a à dire sur la Kabbalah au niveau de ce thème-là. Et c'est une nouvelle façon d'enseigner la Torah. Par exemple, il est le premier à écrire les halakhot sur Hanouka. Alors, on est à l'approche de Hanouka. Eh bien, Rav Acha, dans les Sheiltot, va écrire en long, en large et en travers les halakhot sur Hanouka. Pendant 6 pages, il écrit les halakhot de Hanouka. Et une fois qu'il a terminé les halakhot de Hanouka, dans les premières versions, eh bien, il écrit ce que représente la lumière que Am Israël allume au Beth Amikdash. Et il écrit ça pendant 3 pages sur uniquement qu'est-ce que c'est que la lumière d'Israël au Beth Amikdash. Chez eux, Torah Kabbalah. Et donc, il va faire ça pour tous les sujets. Et c'est une façon fantastique d'étudier la Torah. Parce qu'il n'y a plus de séparation entre Agada et Halakha. Tu sais ce qu'il faut faire parce qu'il t'a expliqué la Halakha et tu sais pourquoi il faut le faire parce qu'il t'a expliqué la Agada. Donc les Sheiltot, telles qu'elles ont été écrites à l'époque, eh bien elles sont fantastiques. Malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut trouver encore des Mahadurot, des éditions où il y a les Sheiltot de l'époque. Mais c'est comme ça que les choses ont été mises en place. Et donc, eh bien, lorsque Rav Acha, c'est un peu aussi le cas dans le Talmud de Yerushalmi, Nachon. Oui, Nachon, tout à fait. C'est aussi le cas dans le Talmud de Yerushalmi, mais c'est beaucoup moins clair. C'est dans le Talmud de Yerushalmi, il y a des Agadot, bien sûr, et on a dit elles sont mélangées au halakhot du Talmud, c'est Nachon, mais c'est pas aussi, si tu veux, c'est pas aussi séquencé en thèmes. Il y a la sugya générale. Donc, on te raconte une agada par rapport à la sugya. Et il faut que tu fasses énormément de recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut t'apprendre là-bas. Alors que dans les Sheiltot, c'est Maot Pashut. Il y a une question, il y a une réponse à l'achik, et qu'est-ce que ça veut dire derrière? L'un de ceux qui va reprendre cette technique-là, c'est le Sefer Achinour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Mais le Sefer Achinour, c'est comme ça qu'il marche. Il marque, voilà, d'après la paracha, il y a cette mitzvah-là. Ensuite, il t'explique Mazé Diné à mitzvah, comment on l'a fait. Et ensuite, il t'explique Shorché à mitzvah. C'est quoi l'origine profonde de la mitzvah? Mais c'est là. Est-ce que c'était une manière de résister aussi? Alors, non, là, il n'y a plus besoin de résister. Parce qu'on est dans une période où on nous laisse un peu tranquille. Alors, évidemment, attention, hein. On nous laisse tranquille, on est quand même sous domination musulmane. Donc, on a besoin de payer la dîme. C'est-à-dire qu'on est toléré en tant que soumis, donc on paye la dîme, on a un statut de dhimmi. Évidemment qu'on n'est pas indépendant et au top du top. Mais on n'a pas cette dimension de persécution et le monde s'est stabilisé. D'accord ? Et donc, je voudrais donner un dernier exemple de la Torah de Rav Chai Gaon par rapport à ces Sheiltot et de cet enseignement de cette Kabbalah. On a dit, il faut absolument que le pourquoi soit associé au comment. D'accord ? Que le pourquoi soit associé au comment, que la Kabbalah soit associée à la halakha. C'est la façon d'enseigner de Rav Chai Gaon. Eh bien, on va avoir un exemple. Je vous ai parlé de Hanouka, on va parler de Pourim. Je donne un exemple. On nous dit, Rav Chai, dans le Mishté de Pourim, eh bien, il faut faire un Mishté. En Kviat Seuda, Ela al Alechem. Donc, tu es obligé, à Pourim, de faire Motsi. OK ? Bon, jusque-là, on n'apprend rien d'extraordinaire. Seulement, nous dit Rav Chai, le motzi de Pourim doit être fait avec un kemar solet. Alors, ce n'est pas nifsak la halakha. Aujourd'hui, tu peux faire des chalot à Pourim comme tu veux, avec la farine que tu veux. Aïm yeshanu sefer mekori chez la sheiltot. Eh bien, il faut aller voir pour trouver les mekori de sheiltot de Rav Chai Gaon. Alors, on a des parties que tu peux trouver sur Internet, mais le Sefer Sefer, eh bien, il faut aller regarder dans les vieilles yeshivot, dans les vieux baté midrash, dans les vieilles éditions. Des fois, tu trouves des trucs dans des vides-greniers extraordinaires, mais effectivement, je pense que ça va être très compliqué de retrouver ça si tu veux aller l'acheter aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous dit Rav Chai, tu dois faire des chalot mi solet. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Mishté de Pourim doit être directement lié au Mekor à Parnassa Ba'olam qui a Pourim Zéagouf, et donc les Chalot au Bet HaMikdash Asuyot Misolet. Or, Mekor à Parnassa Ba'olam, c'est le Shulchan Lechem Apanim du Bet HaMikdash, donc il faut absolument que Telechamim de Pourim, qui sont la Chag de Gouf à Israël, eh bien, dévoile cette dimension du Beth Amikdash. Tout d'un coup, tu es passé d'une fête où tu as battu Aman, et tu es très content d'avoir survécu, à une dimension beaucoup plus profonde où l'objectif est de dévoiler le Beth Amikdash qui nous dévoile Mekor Aparnassa Ba'olam. Là, c'est complètement différent. Et comme ça, dans chacun des sujets. Par exemple, on va te dire dans la halakha que tu n'as pas le droit de faire travailler sous vepered, beyachad. Tu ne peux pas faire travailler dans ton champ, tu as une charrue, tu ne peux pas mettre et un cheval et un mulet ensemble. Ok ? La malo. Eh bien, tout simplement parce que sous ve pered, pered, zemilachon peroud. C'est ce qui est divisé. Et donc, tu ne peux pas la sous vouloir. La sous, ça veut dire la volonté. Aller vers la sous. Et donc, nous dit Rabbeinu Achaïgaon, la volonté de se rattacher à Dieu, elle ne peut pas passer par le peroud. Donc, tu te dois de faire Asod pour coller tout le reste. Tout ça dans une halakha qui te dit que tu n'as pas le droit de faire travailler un cheval et un mulet ensemble. Mais parce que tout d'un coup, on va rattacher eh bien, la halakha avec la Haggadah, thème après thème. Vous savez ? Et ça va être la façon d'enseigner dans la première période de Yeshivat HaGeonim. Je dis la première période parce qu'effectivement, à partir des années 800, eh bien, les choses vont un petit peu changer et on va trouver des Chachamim qui sont plus dans la Halakha et d'autres qui sont plus dans la Haggadah, un petit peu comme on va retrouver plus tard. Mais ça, eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Est-ce que la Torah de Kabbalah nous permet donc de comprendre les Chukim ? Alors, d'abord, oui. Et deuxièmement, les choukim ne sont pas forcément, on n'a pas forcément besoin de la Kabbalah pour comprendre les choukim. Ok? Les choukim, c'est quoi un chok? C'est comprendre que je peux comprendre des choses, mais qu'il y a des dimensions qui m'échappent. Et ces dimensions qui m'échappent, eh bien, vont toujours m'échapper. D'accord? Ces dimensions qui m'échappent, c'est quelque chose d'humilité. Il faut comprendre qu'il y a des dimensions qui nous échappent parce que ça vient de Dieu et ça ne vient pas de nous. Donc, la Kabbalah, elle va nous donner des enseignements, évidemment, mais ce n'est pas pour ça qu'elle va tout nous expliquer. C'est la différence entre Chukim et Mishpatim. Mishpatim, on peut faire tout le tour et comprendre le tout. Chukim, tu peux comprendre des choses, mais il y a des dimensions qui nous échappent. Évidemment qu'avec la Kabbalah, tu comprends plus que sans la Kabbalah. Quand il y a une autre question qui a été posée. Est-ce que Rav Acha, c'est quelle période? Environ 650. Rav Acha naît en 680. Donc, il a dû commencer à bosser en tant que rabbin, je ne sais pas, on va dire en 720. Allez, je lui donne 40 ans, mais peut-être avant, je ne sais pas exactement. Okay, comment dit-on, écrit-on la source en hébreu? Eh bien, comment dit-on la source? Lamed, Sin, Vav, Sin. Alors, vous allez me dire, mais non, mais sous, c'est avec un Samer. Nachon, mais dans le Tanakh, les lettres Samer et Sin s'interchangent sans aucun problème.
De quelle époque?
Allumez vos micros.
Sefer Chinuch, de quelle date c'est, s'il vous plaît?
Le Sefer Chinuch, c'est un petit peu compliqué de savoir à quelle date c'est, parce que ce n'est pas très clair de savoir qui l'a écrit. Ceci étant dit, on parle communément du XIIIe siècle.
XIIIe siècle, merci.
Mais bon, on y reviendra, on y reviendra.
Alors, avec une question de la conservative.
Oui, Yacob.
Ben, moi, j'ai une question. J'ai vu que quelqu'un tout à l'heure sur le chat a écrit par rapport au Pnei Halakha, peut-être qu'il aurait renoué avec une ancienne tradition.
Peut-être que quoi?
Le Pnei Halakha, le Rav Melamed, l'Elazar Melamed, où il a renoué avec une ancienne tradition, le fait qu'justement, il relie Halakha et Agada.
Il y a marqué ça dans le chat?
Oui, il y en a quelqu'un qui a écrit, vous n'avez pas fait attention. Parce qu'il y avait une question juste après sur ça. Mais juste, okay. Moi, par rapport à cette question, je rajoute en disant que le Mekor Chaim, le Rabbi David Alevi, il a aussi fait ça. Je crois que c'est pour ça qu'il a reçu la Askama du Rav Zehuda. Et c'est la question. C'est une manière d'enseigner l'Alakha, Alakha et Agada, quoi. C'est ma question. C'est...
Ah, il a fait. Je viens de voir le chat. Tu as raison, évidemment. Les poskim actuels, il y en a beaucoup qui ont cette tendance à vouloir relier à la Chava Agada. Et c'est très, très, très bien. Il faut faire ça, quoi. On n'a pas le choix aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, pourquoi le rabbinim avait-il peur d'enseigner la Halakha et Agada en même temps et ils ont évacué toute cette partie de Agada de Sheiltot de
Halakha? Malheureusement,
est-ce que c'est lié au développement de la chrétienté ou...
Non, c'est pas du tout lié à la chrétienté. C'est malheureusement l'impression, l'édition des livres de Torah a été quand même, je parle récemment, quoi, dans les 200 dernières années, a été quand même extrêmement dominé par le monde religieux ashkénaze. Et dans le monde religieux ashkénaze de ces 100-200 dernières années, on ne parle pas Kabbalah.
Oui, mais même si on ne parle pas Kabbalah arabe, il y a l'éditeur et il y a l'écrivain. C'est-à-dire, qui est l'éditeur pour changer l'écrivain, quoi?
Ah oui, mais Boker Tov, Eliyahu. Boker Tov. Regarde, je vais te donner un autre exemple. Un exemple fantastique. C'est-à-dire, il y a une Igeret. C'est aussi l'époque des Géonim. Dans la Igeret de Rabbeinu Shrira Gaon, okay, c'est à peu près 80 ans après. Dans la Igeret de Rabbeinu Shrira Gaon, qui est un livre d'histoire. D'accord ? Igeret de Rabbeinu Shrira, c'est un livre d'histoire. Dans lequel il y a marqué noir sur blanc que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à la guerre de Bar Korva. C'est-à-dire noir sur blanc. Dans la nouvelle édition de Noussar Tsorfat, ils ont enlevé la phrase. Parce que ça ne leur plaisait pas.
C'est bizarre quand même, non? Parce que bon, c'est
censuré. Il y a fait des rames. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit noir sur blanc?
C'est ce qu'on appelle de la censure, exactement.
Rav, qu'est-ce qu'il y avait écrit noir sur blanc? Que les Talmidim de Rav Akiva
sont morts dans la guerre de Bar Kokhba.
Il y a une question à Rav de Yitzhak.
Oui, Yitzhak.
Oui, bonjour Rav. Alors, question par rapport au monde ashkénaze. La chassidoute, pourtant, avec le Baal Shem Tov et tout ce qui s'en est suivi, il y a beaucoup de sod dedans, il y a beaucoup de, d'ésotérique. Quelle différence avec la Kabbalah?
C'est une excellente question, mais à laquelle je ne pourrai répondre que lorsqu'on arrive à l'étude de la chassidoute. Là, on est aux années 700, va falloir que tu attendes encore 1000 ans.
Bon, dans une prochaine vie alors.
Non, mais tu comprends, c'est évidemment qu'on va arriver à la chassidoute et évidemment qu'on va en parler beaucoup de la chassidoute. Mais les athlètes.
Ok, bien.
Arabe, les Ashkenazim, le fait d'être aussi anti-Kabbalah, anti-Sod, c'est que à cause de... comment il s'appelle?
Shabtai Tzvi.
Shabtai Tzvi, bah, c'est autre chose. C'est quelque chose dans le ressenti de...
Oui, mais Shabtai Tzvi, c'est pas l'époque.
C'est pas l'époque, c'est 1648. Enfin, plus ou moins. Ben, à partir
c'est encore
de
Shabtai... 1000 ans.
C'est quoi?
C'est encore 1000 ans d'attente.
Non, mais d'accord, mais il n'y a pas d'Ashkenazim avant. À l'époque des Géonim, on ne parle pas d'Ashkenazim encore.
Mais justement,
je dis que aujourd'hui, il y a une rétia, il y a une grande prise de recul dans le monde ashkénaze par rapport à la Kabbalah. C'est dû, entre autres, au drame et au traumatisme laissé par Shabtai Tzvi, par Yaakov Frank. Et donc, ça crée un vrai traumatisme dans le monde ashkénaze. Et donc, tous les gens qui étaient un petit peu mystiques, les rabbins se sont complètement éloignés de ça. Rajoute à cela qu'il y a des rabbanim qui étaient des sommités halakhiques qui, eux, ont rejeté la Kabbalah de manière totale. Comme par exemple le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Ça, il s'est complètement opposé à la Kabbalah. Donc, ça a commencé à rentrer, et voilà.
Et pourtant, il a beaucoup d'esbérim, Pipnimiout.
De quoi?
Le Rav Hirsch, il n'a pas été ami, mais il a des commentaires un petit peu pnimim comme ça.
Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch n'a aucun commentaire alpi à Kabbalah. Il a beaucoup de commentaires alpi à logique, alpi à chinour, alpi à chokhma. C'est quelqu'un de très intelligent et de très Talmid Chacham. Mais à aucun moment, il cite la Kabbalah.
Mais tout est Kabbalah, j'ai pas compris moi ce truc-là.
Ça veut dire quoi?
C'est que même la plus simple de faire des Sillat Yadayim à droite et à gauche, on l'étudie, c'est de la Kabbalah en vérité. La vraie notion de faire le mettre ses téfilim, etc., tout est relié à quelque chose de plus grand. Et donc ces gens-là, ces rabbinim-là, faisaient des gestes juste pour faire des gestes, quoi. Ils comprenaient plus ce qu'ils faisaient alors.
Mais si, ils te disaient il faut se laver les mains parce qu'il faut être propre.
Comme n'importe qui.
Rabotai, n'y l'en Alpia Alacha, j'ai envie de me manger un sandwich. Ok? Alpia Alacha, je dois me laver les mains combien de fois?
Zéro.
Une fois.
Une
fois à droite, une fois à gauche. Mm-hmm. Pourquoi je dois me laver les mains une fois à droite et une fois à gauche? Pour être propre. Zéro. Alpia Alacha. Alpia Kabbalah. Trois fois à droite, trois fois à gauche. Ça adhère, un bien Kabbalah. Donc, d'après la halakha, je peux très bien me laver les mains et être besséder au niveau du Shulchan Aruch. Et j'ai fait ça parce que je voulais être propre.
Il y a une question de Yurkhevet.
Oui, Yurkhevet.
Enlever le micro, je vous remercie. J'ai plusieurs questions, j'essaie de le mettre dans un ordre certain. Tout d'abord, c'est une question de l'écriture. Comment s'écrit, s'il vous plaît, le nom de Rav Eliezer, qui était le Mekoubal des années 500?
Rabbi Eliezer Akalir. He Kuf Lamed Yud Reish.
Maintenant, j'essaie de formuler une question qui, déjà pour moi, est assez compliquée à articuler. Et vous nous avez. On voit de l'enseignement d'aujourd'hui qu'il y a une polarisation dans l'enseignement entre le comment et le pourquoi. n'est-ce pas? Et qu'il y a plusieurs moments, il y a volonté de ramener ces deux aspects ensemble.
Tout à fait.
Maintenant, dans le cours précédent, nous avons vu que dans le comment, on parle surtout de la manière dont on s'attache à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et dans le pourquoi, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous parle et que nous recevons sa parole. Maintenant, ma question porte sur le langage. Pourquoi ce lien entre le comment et le pourquoi? Pourquoi le pourquoi? Pourquoi répondre à la question pourquoi et associer, rattacher le comment au pourquoi et nous faire recevoir la parole à Kadosh Baruch Hu? Ça, c'est une question.
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je vais essayer de la reformuler. Oui. Vous me dites si c'est ça. En fait, vous posez la question, en quoi le fait de connecter le comment et le pourquoi va nous permettre de comprendre la parole divine? C'est plus ou moins ça que vous posez comme question?
Yofi.
Parce que chez moi, la parole, elle est détachée de l'acte. Chez moi, je peux parler et ça n'engage rien. Et je peux agir sans parler. Alors que chez le Créateur, la parole, c'est l'action, puisqu'il a créé par la parole. Ainsi, comment? Le comment, c'est ce qui est rattaché à l'action, le pourquoi, c'est ce qui est rattaché au dibour. Donc moi, dans mon univers à moi, je peux très bien séparer les deux. Mais si je veux comprendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui elle est créatrice, eh bien, je suis obligé de rattacher le comment avec le pourquoi.
C'est pour ça que le sens, le pourquoi, il se renouvelle en fonction de l'environnement dans lequel je peux faire le comment.
Bien sûr.
Et des conditions du temps, des conditions
évidemment,
historiques.
Évidemment.
Mais, et alors, comment la dimension du temps, on a vu dans ce cours que c'est un des axes qui va être privilégié, comment elle se... Quelle est la particularité de la prise en compte de la dimension du temps lorsque l'enseignement va soit dans les directions du comment, soit dans les directions du sens, ou bien rattache les deux?
La compréhension aiguë de l'époque dans laquelle on vit, donc du temps, va nous permettre de donner l'enseignement qu'il faut au bon moment et de ne pas dire ce qui ne peut pas être entendu. C'est ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, qu'il faut dire, de la même façon qu'il faut dire ce qui peut être entendu, il ne faut pas dire ce qui ne peut pas être entendu. Et pour ça, il faut connaître et comprendre l'époque dans laquelle on vit.
Et je continue. Dans un cours de tout début, vous nous avez dit que la Kabbalah permet de construire l'intériorité à partir du moment de l'exil, à partir du moment où il a fallu quitter Eretz et qu'il est le départ et, après la conquête par les Romains. Et la responsabilité ou le travail à faire, c'était celui de construire l'intériorité. Vous vous souvenez de cela? Et en quoi cette construction, en quoi l'enseignement que nous voyons aujourd'hui va dans ce sens-là?
Aujourd'hui?
Je veux dire, aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui.
Ah!
C'est-à-dire la période des années 560,
600, 700. L'humour, on a dit l'allégorie et l'humour mis par Rabbi Eliezer HaKalir, qui va nous permettre d'avoir un rochav amarchava, qui va nous permettre d'avoir un élargissement de la pensée, qui était nécessaire à ce moment. Oui, David.
Il reste quelques secondes, Aram, si vous voulez clôturer le cours.
Moi, je veux bien juste caler une demi-question rapide.
Vas-y.
Ce que vous avez dit par rapport à la parole et l'acte, est-ce que c'est la raison pour laquelle on fait une bracha, par exemple, avant de faire une mitzvah? C'est en fait le fait de lier la parole et l'acte.
Exactement.
Ah bah, très bien.
Génial. Merci beaucoup.